J'ai dit à maintes reprises que l'État, issu de la Révolution nationale, devait être autoritaire et hiérarchique.
Bonjour, dans le fil de l'histoire aujourd'hui, une nouvelle série, le régime de Vichy fut-il une dictature? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre toute cette semaine, du lundi au vendredi à 14h04, à podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série, qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h. Une émission enregistrée en public, le public chaleureux des rendez-vous d'histoire de Blois. Le régime de Vichy ne représente que 5 années de l'histoire de France, mais il n'en finit pas depuis 80 ans de hanter notre mémoire collective et familiale avec cette question obsédante, comment cela a-t-il pu arriver? Alors qu'en juin 1940, à la stupeur générale, la France était envahie par l'armée allemande, comment se fait-il que le pays de la Révolution de 1789, modèle de démocratie pour le monde, grande puissance économique et militaire, a pu en seulement quelques semaines basculer de la République à un régime autoritaire, liberticide et rapidement criminel? Un régime dont la légitimité est incarnée par un homme de 84 ans, le maréchal Pétain. Pour Pétain et ses amis politiques, avec à leur tête Pierre Laval, la défaite est l'occasion inespérée de renverser la République, de créer un ordre nouveau au nom d'une révolution nationale et de collaborer avec Hitler qui, il n'en doute pas, va gagner la guerre et dominer l'Europe. Collaborer d'égal à égal, espère-t-il. Une sinistre illusion qui, jusqu'en 1944, dans une fuite en avant, conduira le régime de Vichy à sombrer dans une collaboration de plus en plus zélée et criminelle, sans y avoir été contraint par l'occupant. Sur le régime de Vichy, on croyait tout connaître, mais grâce à des documents inédits, des recherches récentes ont révélé à quel point, jusqu'au bout, les hommes de Vichy ont été les acteurs conscients de ce déshonneur quand d'autres choix étaient possibles. On en parle toute cette semaine avec vous, Laurent Joly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du régime de Vichy. Vous avez dirigé Vichy, Histoire d'une dictature, 1940-1944, un ouvrage édité chez Talendier qui réunit les travaux récents de vous et de 10 autres historiens et historiennes sur ce sujet.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Juin 1940, après l'invasion allemande, la situation militaire semble désespérée. À Bordeaux, où le gouvernement s'est réfugié, le maréchal Pétain, le 17 juin, est nommé président du Conseil. Du héros de Verdun, on espère un sursaut national. En réalité, depuis début juin, Pétain et le général Weygand, qui commandent les armées françaises, ne pensent qu'à négocier avec l'ennemi. À aucun moment, ses partisans de l'armistice n'envisagent de poursuivre le combat en Afrique du Nord et d'honorer l'alliance française avec le Royaume-Uni. Une femme, Hélène Opnaud, photographe et épouse diplomate, qui se trouve alors à Bordeaux, est effarée par l'ambiance qui y règne. « Il est à craindre, écrit-elle dans son journal, que nos politiciens, doublés par nos militaires, ne songent qu'à renverser le gouvernement pour faire une paix séparée. » Et lorsque le 17 juin, Pétain appelle les Français à cesser le combat, Hélène Opnaud note avec colère « Une nouvelle politique se prépare, germanophile, elle sera la revanche de tous les aigris, les ratés, les défaitistes. » Un exemple de cette ambiance délétère, le même jour, à Bordeaux, Georges Mandel, figure politique de la Troisième République et juif, est arrêté alors qu'il déjeune dans un restaurant. Il sera finalement relâché, mais l'événement donne un avant-goût de ce que sera le régime de Vichy, liberticide et antisémite. Mandel sera tout de même arrêté une semaine plus tard, quand il débarquera au Maroc français, avec 26 autres parlementaires, décidés comme lui à poursuivre le combat.
Nous avons à restaurer la France. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous conduis. Français, vous l'accomplirez. Et vous verrez, je vous jure, une France neuve surgir de votre ferveur.
C'était évidemment le maréchal Pétain qui s'exprimait le 25 juin 1940. Laurent Joly, pendant ces journées terribles qui vont décider du sort de la France, on est encore donc dans la Troisième République, mais plus pour longtemps. Et déjà, on le voit, une ambiance de complot anti-républicain, défaitiste, anglophobe, antisémite règne à Bordeaux, dont les principaux protagonistes sont déjà Pétain et Laval.
Pétain, Laval et un troisième homme qui s'appelle Raphaël Alibert. Alors l'une des thèses qu'on développe dans ce livre, c'est effectivement qu'il y a eu une conjuration. Laval, c'est un homme de centre-droit, un opportuniste, un affairiste. Enfin voilà, c'est l'homme de droite, on va dire, assez classique de l'époque. Et il va s'entendre, il va s'allier avec un proche conseiller du maréchal Pétain, Raphaël Alibert, qui lui est un doctrinaire illuminé. Et tous les deux, ils n'ont pas la même histoire, mais ils ont le même objectif. Ils veulent abattre la République. Et ça, ils sont au départ que deux à croire à ça. Les autres, c'est le choc de la défaite. On voit bien, il suffit d'entendre les paroles du maréchal Pétain. Dès qu'il est nommé, le maréchal Pétain, le 17 juin 1940, il dit aux Français et aux Françaises, un ordre nouveau va commencer. Donc on sait qu'il va y avoir un changement.
Alors qu'on est encore dans la Troisième République.
Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, dans le sonore que vous avez mis, mais tous les sonores qu'on entend généralement du maréchal Pétain, la plupart datent d'avant Vichy. La terre qui ne ment pas, l'esprit de jouissance, etc. Donc c'est très frappant de voir qu'il y a Vichy avant Vichy. Vichy. Donc on voit qu'un terrain très clairement idéologique est préparé, et pour autant, ce n'était pas une fatalité. Ça a été des hommes qui ont été acteurs et qui ont fait des choix, qui ont réussi à entraîner les autres.
Mais c'est tout de même dans le contexte de la défaite française face à l'Allemagne.
Bien sûr, c'est ça le choc qui permet à des gens qui sont, et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup appuyé sur le témoignage d'Hélène Hopneau, vous allez sur quatre autres témoins, et Hélène Hopneau a une préscience, elle a parfaitement compris ce qui va se passer, parce qu'effectivement...
Elle n'est pas la seule, il y a d'autres témoignages que vous donnez dans votre livre qui vont dans le même sens.
Absolument, c'est la revanche d'une minorité. Alors d'une minorité qui est assez forte, qui s'est déployée, qui a augmenté, c'est l'extrême droite française. Qui est jusqu'à la fin des années 30, qui n'est pas représenté au Parlement, mais il y a une force politique qui s'appelle le Parti Social Français, c'est le colonel Delaroque, l'ancien président des Croix-de-Feu, qui est à la tête de cette organisation, et cette organisation, elle a pris de plus en plus de place, elle a un mot d'ordre qui s'appelle « travail, famille, patrie », elle a la volonté de réformer complètement les institutions, de s'en prendre au naturalisé. Enfin bref, il y a un programme qui est déjà là. Et c'est ce programme qui va être repris par certains ministres de Pétain, Végan, qui est ministre déjà de la Défense nationale, enfin qui va l'être, qui est à la tête de l'armée. Donc tous ces gens-là, en fait, ont un programme qui va être l'application durcie du programme de l'extrême droite française des années 30.
Pourtant, Pétain avait quand même l'image d'un homme républicain.
Alors, c'est une image qui est un peu trompeuse. Effectivement, Pétain, et ça, c'est très bien montré dans le chapitre d'Anne-Sophie Anglaret, qui montre bien que, en fait, Pétain, il a une notoriété et un prestige qui dépasse les clivages politiques, très clairement, parce que c'est le vainqueur de Verdun, c'est une notoriété mondiale, puis c'est un homme qui a une vraie dignité, hein, quand on l'entend, c'est quelqu'un qui... Mais malgré tout, ce que Anne-Sophie Anglaret a très bien montré, c'est que il est, dès les années 30, proche de la droite et de l'extrême droite. En 1936, il a pris position contre le Front populaire. Pour un militaire, vous savez que les militaires n'ont pas le droit de vote. Il a soutenu le programme des Croix de Feu, du colonel Delaroque, en disant « c'est très bien, c'est ce sens-là ». Donc, il est quand même marqué politiquement. Et puis, on l'a envoyé en Espagne comme ambassadeur pour essayer d'amadouer le dictateur Franco. Puis on se rend compte très vite qu'en fait, il s'entend très bien. C'est un peu ça, son idéal politique. Donc, c'est un homme qui a un idéal politique. Et son idéal politique, c'est les dictatures qu'on voit un petit peu partout en Europe. Voilà, au Portugal de Salazar, le Mussolini en Italie, Franco en Espagne. Dans l'esprit du maréchal Pétain et de son entourage, la France doit adopter un régime similaire.
Est-ce que la thèse du complot, Laurent Joly, n'amoindrit pas la responsabilité d'un homme comme Paul Reynaud, par exemple, qui était le président du Conseil avant Pétain et qui a démissionné ?
C'est vrai qu'il y a un drame chez Paul Reynaud. C'est qu'à la fois, Paul Reynaud a appelé en mai 1940 le maréchal Pétain et Végan également à la tête de l'armée pour doper le moral de la nation, parce qu'il faut quand même bien voir que Pétain... C'est l'homme le plus populaire de France, quasiment. Il est très populaire. On se dit, s'il y a Pétain, donc il y a vraiment un malentendu. Et donc, d'un côté, effectivement, il a offert le pouvoir à Pétain. Et de l'autre, en appelant le général de Gaulle dans son gouvernement avec un sous-ministère, il est sous-secrétaire d'État, et en l'envoyant le 15 juin 1940 à Londres rencontrer Churchill, il a aussi offert à la France une carte maîtresse. Donc Reynaud, c'est les deux, et c'est surtout le vaincu de cette histoire, parce qu'il a fait un mauvais choix, il en a fait un autre, indépendamment en quelque sorte de lui, il ne savait pas que de Gaulle deviendrait ce qu'il est devenu.
Merci Laurent Joly. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les pleins pouvoirs à Pétain vont être votés le 10 juillet 1940 à Vichy et comment en quelques jours, Pétain et Laval vont mettre en place ce qu'on appellera le régime de Vichy.